vie en nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade, c'est la radio follement normale qui nous permet de nous retrouver chaque jeudi autour de la table du studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Eliane, de Christelle, de Christine, d'Andrea et de nos complices Dominique et Julien à la technique. Et nous profitons encore du soleil et du petit vent qui se lève pour être hors les murs du studio dans ce magnifique parc de Malévaux. Alors, avant de commencer cette émission, une petite communication de service. Comme on dit, si vous êtes présent à Malévaux à 16h30, il y a la restitution du travail de l'atelier 6A. C'est juste derrière la buvette du Torrent. Donc, bienvenue si vous êtes à Malévaux aujourd'hui. Avec vous toutes et tous, nous accueillons notre invité de ce jeudi, Silette Créton. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre autour de la table de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade, c'est toute une équipe. Et en début de semaine, eh bien, j'ai envoyé à cette équipe un lien vers votre page Wikipédia. Une page bien fournie. On y apprend que vous avez été enseignante, journaliste, engagée politiquement, députée au Grand Conseil valaisan. Mais, et c'est peut-être l'essentiel, vous avez été et vous êtes toujours d'ailleurs un modèle pour des générations de femmes. On va en parler bien évidemment de ce parcours au cours de cette émission. Mais j'ai une première question qui généralement conclut une émission. Alors je vous la pose. Qu'est-ce que la petite Silette Créton aurait envie de dire à la grande Silette Créton aujourd'hui ?
Oh, je ne sais pas, la petite Silette Créton avait certainement beaucoup plus d'imagination que la grande d'aujourd'hui. Elle lui aurait certainement demandé si sa vie avait valu la peine d'être vécue. À quoi la grande répondrait évidemment oui.
Alors vous êtes toutes parce qu'on n'est que des femmes, enfin Julien à la technique, mais autrement il y a des femmes autour de la table. Vous êtes toutes bienvenues pour poser des questions à Silette. Et Silette, vous avez aussi la possibilité de poser des questions aux personnes ici présentes. Je vous propose qu'on remonte un peu le fil du temps. Nous sommes en 1968 et vous obtenez un diplôme en pédagogie curative. Ça consiste en quoi ?
C'était le nom qu'on donnait à la pédagogie spécialisée. Ça veut dire que je me préparais à m'occuper d'enfants mentalement handicapés, de ces enfants dont le trouble n'était pas suffisant pour qu'on ne les affuble pas, en plus du terme terrible d'oligophrène profond. Il faut dire que dans les années 60, on a créé en Suisse l'assurance invalidité et que c'était les tout débuts des moments où on acceptait d'accueillir dans des classes des enfants qui avaient de grosses difficultés mentales, qui étaient nés tout simplement avec un handicap mental. Et le souvenir le plus vif que j'ai de cette époque, j'avais eu l'occasion de faire des colonies avec ces enfants et ça m'avait beaucoup frappé qu'à l'époque, on ne les accueille pas dans les classes. C'est les parents qui avaient dû s'organiser pour créer des classes, pour accueillir leurs enfants, sans quoi ces enfants n'étaient tout simplement pas scolarisés. Et à l'époque, je rappelle que la Castalie, par exemple, n'existait pas. Il y avait quelques institutions, mais très peu de choses.
Oui, Eliane, prenez le micro. Prenez le micro.
Pardon. Petite question. Donc, les enfants n'étaient pas accueillis dans les écoles normales. Ordinaire. Donc, les parents devaient payer pour être dans une institution privée ou bien ?
Alors, non, justement, comme l'assurance validité avait été mise en œuvre, a été décidée au cours des années 60. L'assurance invalidité subventionnait la prise en charge de ces enfants. Et les parents se sont tout simplement organisés dans le canton pour ouvrir des classes. Et les toutes premières classes qu'on a ouvertes, c'était justement en 1968 à Sierre, à Sion, à Montet, à Martigny. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de faire mes premières armes. Dans ces toutes premières classes, on recevait les enfants, arrivaient le matin en bus. Et on les gardait jusqu'au soir. Ils mangeaient avec nous à midi. Et puis ensuite, les bus les ramenaient chez eux. Mais c'était vraiment les toutes premières classes qui ont accueilli ces enfants.
Moi, j'en reviens à vos études. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement la pédagogie curative? Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de travailler dans l'enseignement déjà?
Alors oui, j'avais fait mon école normale. Donc à l'époque, c'était la filière que l'on suivait pour devenir des enseignants. À l'origine, c'était tout simplement un manque d'imagination congénitale. J'avais des parents qui étaient enseignants tous les deux. Ma sœur ici présente était enseignante elle aussi. Donc il semblait qu'on suivait des voies comme ça qui étaient toutes tracées. Et puis en 66 et 67, je suis allée faire des colonies comme monitrice avec des enfants handicapés mentaux. Et j'avais été effarée de constater que ces enfants n'étaient pas accueillis dans les classes ordinaires. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de me former dans ce domaine-là. À l'époque, on suivait 2 ans d'université à Fribourg pour pouvoir travailler avec ses enfants. Et je dois dire que je n'ai jamais regretté ce choix.
Que vous ont apporté justement ces années d'enseignement auprès d'enfants en situation de handicap?
Bon, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que d'abord, ces enfants étaient très attachants. Ils sortaient très peu de leur cadre familial, ils connaissaient peu de monde. Donc on avait le sentiment que c'était un peu nos propres enfants. Hein. Ils étaient très attachants, ils avaient envie d'apprendre. Et puis quand ils faisaient des bêtises, eh bien, on savait que ce n'était pas volontaire. Donc je trouvais qu'il y avait un côté presque tranquillisant à s'occuper de ces enfants parce que... voilà, il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Il n'y avait aucune méchanceté, aucune envie de nous agacer.
Eliane ?
Oui, encore une petite question. Est-ce que les enfants handicapés dans une classe sont solidaires l'un envers l'autre ou pas du tout ? Solidaires dans le sens de l'amitié, je voulais dire.
Oui, je dirais que... Pour moi, c'est un réflexe assez naturel, non seulement solidaire entre eux, mais ensuite, je me suis beaucoup battue avec d'autres, bien sûr, pour que ces classes d'enfants à problème soient intégrées dans les établissements scolaires avec les autres enfants. Et le constat qu'on faisait au début de cette intégration, c'est qu'on devait presque se battre contre les autres enfants pour qu'ils ne viennent pas tout le temps les aider. On leur disait il faut qu'ils puissent apprendre quelque chose. Or, dès qu'ils avaient une petite difficulté, etc., il y avait tout de suite d'autres enfants qui venaient leur aider à porter le sac, les aider à s'habiller, etc. Donc, je crois que c'était plus naturel d'être solidaire qu'à l'inverse, hein, de les rejeter.
Christelle, je vous vois hocher la tête. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose?
Merci déjà d'être là avec nous. Et puis, moi, je viens de France. Hein. Je suis française d'origine. Je suis de 1970. Et à l'époque, on nous prenait pas en charge de cette manière-là. Je n'ai pas connu ça à l'école. Et ça m'intéresse beaucoup de découvrir qu'en Suisse, il y a eu quelque chose de fait à ce niveau-là. Parce que moi, j'étais un enfant, j'étais une petite fille plutôt hyperactive. On dirait maintenant TDAH, mais il n'y avait pas ce soutien, il n'y avait pas cette solidarité. Moi, j'ai été dans des écoles de curés, des écoles catholiques. Et c'était plutôt à la dure que de la solidarité qu'on apprenait, en fait.
Alors, je dirais que tout dépend de l'endroit où on se trouvait. Moi, je me souviens que dans les années 68-70, hein, moi, je suis beaucoup plus vieille que vous, j'ai 80 ans cette année, mais on allait visiter des classes en France. Donc, il y avait des lieux où on développait certaines formes de prise en charge. évidemment pas pour des TDAH, ça c'était presque du luxe qu'on a découvert bien des années plus tard, hein, où on s'est intéressé à toutes sortes de troubles, à toutes sortes de manifestations, hein, ou de difficultés que pouvaient rencontrer les enfants. Moi, ceux dont je vous parle et qu'on appelait les oligophrènes profonds, certains ne parlaient pas, certains ne marchaient pas. Apprendre à lire, c'était presque un exploit, hein, pour certains de ces enfants. Et là, je crois qu'un peu partout, on commençait à les prendre en charge, à se rendre compte que les parents ne pouvaient pas tout faire, que certains se retrouvaient d'ailleurs sans parents, et il fallait bien que la société s'en occupe avec les moyens du bord. Mais je pense que les Français étaient loin d'être en retard parmi nous pour ces questions-là.
Oui, ouais. Et comme vous le dites très justement, il y avait des échanges entre vous.
Oui, oui. On allait par exemple à Bologne. Je me rappelle avoir été visiter des classes à Bologne parce que c'est les premiers endroits en Italie où on a estimé qu'il fallait que ces enfants puissent être en contact avec les autres. Et qu'on créait ces classes dans les bâtiments scolaires avec les enfants dits normaux.
Silette Créton, je vous propose une première pause musicale et je dois vous dire que j'ai choisi spécialement pour vous des chansons en rapport avec votre parcours. La première d'entre elles est une chanson du chanteur Grégoire. Elle s'intitule « Mon handicap ».
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, qui me fait mal.
Le handicap vu par Grégoire, qui nous dit en résumé que le handicap, c'est peut-être tout simplement le regard que l'on porte sur la personne que l'on juge différente. Silette Créton, vous êtes aujourd'hui l'invitée de Pavillon Nomade, cette radio follement normale qui est née ici, à Malévo. Que connaissez-vous de Malévo ?
Oh là là, ça évoque pour moi une réalité qui n'est pas un souvenir. Moi, je suis née le 9 août 1945. Ça veut dire à la fin de la dernière guerre mondiale. Le 9 août, c'était même le jour où les Américains ont largué leurs bombes sur Nagasaki. Ce qui a fait très longtemps dire à mon frère qu'une catastrophe n'arrivait jamais seule. Et disons, si je parle de ça, c'est parce qu'à ma naissance, j'étais la troisième d'une famille. Les naissances avaient été assez rapprochées. Ma mère avait eu un accouchement particulièrement difficile. Elle a fait une grosse dépression après cet accouchement. Elle a dû faire un séjour ici à Malévo. Alors, je n'ai pas de souvenirs puisque c'était mes premiers jours de vie. Mais je me souviens qu'elle nous en parlait parfois et qu'il y avait toujours une petite gêne quand elle nous parlait de ce moment qui avait dû être extrêmement douloureux pour elle. Donc voilà, Malévo, ça me fait penser à ça d'un côté. Puis après, pendant des années, je n'en ai plus vraiment entendu parler. Mais c'est vrai qu'en 1968, quand je me suis lancée dans ma profession première de m'occuper d'enfants mentalement handicapés, j'étais venue visiter Malévo. À l'époque, il y avait des liens très étroits entre les psychologues, par exemple, de Malévo et l'école La Bruyère qui accueillait les tout premiers enfants en difficulté. Et j'avais été extrêmement frappée par la visite de ce lieu. Il faut dire qu'à l'époque, les moyens n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et que vraiment, ça devait être très difficile, non seulement pour les patients, mais pour les soignants, parce que les conditions étaient extrêmement sommaires. Mais ça m'a laissé comme ça quelques souvenirs.
Et vous êtes présente ici aujourd'hui parmi nous, ici à Pavillon Nomade. La parole est libre. Chacune et chacun apporte son vécu, partage ce dont il ou elle a envie de partager, de raconter ses instants de vie. Et comme je l'ai dit, de partager. Chantal nous a rejoint autour de la table. Merci. Si vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas. Vous me faites juste signe que je puisse vous donner le micro. Il y a Christine qui a envie d'intervenir.
Oui, alors moi, je ne connaissais pas votre parcours en ce qui concernait les enfants. Mais par contre, j'ai dans mes souvenirs de ma jeunesse, dans les années entre 70 et 80, votre fort engagement au niveau féministe. Et vous étiez notre idole, parce qu'on était encore à l'école des sœurs à Sierre. Et on avait vraiment cette envie d'égalité. Et on y croyait. Et le chemin est encore long, parce qu'il n'y a toujours pas d'égalité. Mais vous étiez vraiment une idole pour nous.
Alors c'est vrai, on va venir à ce parcours, effectivement. Une idole, Silette Créton.
Bah écoutez, j'entends souvent ce genre de choses et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Parce qu'on n'avait pas du tout le sentiment d'être des idoles. Les toutes premières femmes qui ont commencé à faire de la politique, ça a été Gabrielle Nanchène, la toute première, c'était en 71. Elle, c'est quand on a eu le droit de vote au niveau fédéral. En Valais, on l'avait eu en 1970. Et moi, je suis entrée au Grand Conseil en 73. Ça veut dire lors de la première élection de quelques femmes au Grand Conseil. C'était assez amusant parce qu'on était 7 femmes, je crois, sur 130 sièges. Donc, évidemment que chaque femme qui se faisait élire devait mettre à la porte un homme. Donc, c'était une femme de plus, c'était toujours un homme de moins. Donc, c'était assez complexe à l'époque. Mais j'ai gardé de très, très bons souvenirs parce que évidemment qu'il avait fallu avoir quand même un solide appui des hommes aussi, sans quoi le droit de vote ne nous aurait pas été accordé, puisque ils étaient seuls à voter quand il a fallu décider de cette option. Mais je dois dire que l'ambiance était presque amusante. Et depuis ce moment-là, eh bien, ils nous ont fait savoir que puisqu'on était là, on n'avait qu'à s'occuper de nos affaires. Et c'est ce qu'on a tenté de faire pendant des années.
À propos de ce féminisme, cette égérie que vous êtes devenue, dans un article paru dans Le Matin en 2018, vous racontez un souvenir lié à votre maman, qui était enseignante et qui râlait, je vous cite, lorsque son mari s'emparait de son salaire. Elle avait l'impression qu'elle travaillait pour rien, qu'elle ne recevait rien. Cette sensibilité à la question féminine, c'est de là aussi qu'elle vient ?
C'est pour, je dirais, presque l'essentiel de là que ça vient. Ma sœur pourrait en témoigner aussi. À l'époque, les enseignants recevaient leur salaire tous les mois par le facteur. Et quand ma mère recevait sa part de salaire, qui, il faut le dire, pour le même travail que mon père, était à peu près de la moitié du salaire de mon père, on l'entendait rouspéter en disant « mais c'est pas normal », etc. Donc c'est vrai que si je n'avais pas baigné dans cette atmosphère-là, probablement que j'aurais vu les choses assez différemment. Mado, tu peux en rajouter une.
Voilà, j'aimerais bien vous entendre.
Tu as vécu ça 2 ans de plus que moi.
j'aimerais bien vous entendre.
C'est vrai, j'ai vécu la même chose, mais j'ai peut-être pas été aussi sensible que toi à cette affaire-là. Mais je l'ai connue aussi après, parce que avec mon mari, c'était la même chose. On avait nos deux salaires, et puis il fallait que j'aie une autorisation pour aller chercher le mien. Donc, j'ai vécu aussi un peu ça.
Oui, Christelle.
Moi, je me suis mariée, j'avais 20 ans en 1990, et j'ai vécu ça pendant 8 ans, où je travaillais, j'avais mon salaire, mais je n'en ai jamais profité, en fait. Mon mari travaillait aussi, il ramenait aussi le salaire, mais moi, je devais payer les factures. Mais je n'ai pas vu un centime passer pendant toutes ces années, en fait. C'était vraiment l'homme qui gérait tout, en fait, au niveau financier. Et je ne parle pas du reste, mais c'est inadmissible, quoi, en fait. Et j'ai travaillé dans la sécurité et j'avais pas le même salaire que mes collègues de travail. J'avais 1000 francs de moins à l'époque que, enfin 800 francs de moins qu'eux à l'époque. Et c'était en 1991-92.
Et on est en 2025 et il n'y a toujours pas l'égalité de salaire.
Évidemment.
En tout cas dans l'enseignement, mais aussi ailleurs, il n'y a toujours pas l'égalité de salaire.
Effectivement, dans l'enseignement, c'est arrivé un peu plus tôt. Mais je dois dire que tout simplement jusqu'en 81, par exemple, en 81, on a inscrit dans la Constitution fédéral le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Mais jusque-là, moi, je me souviens que j'ai appris un jour, je mangeais un soir avec mon époux à l'époque chez Pascal Couchepin, qui est devenu par la suite président de la Confédération. Et c'est lui qui m'avait appris que, par exemple, mon mari avait le droit de m'interdire de travailler s'il le voulait. La loi était ainsi faite. Le droit matrimonial avec le chef de l'union conjugale était ainsi faite. Il a donc fallu changer tous ces textes législatifs pour envisager un tout petit peu d'égalité. Mais
il y a de quoi avaler de travers lors du repas, hein, quand on entend ça. Oui, Andrea.
Moi aussi, je suis mariée depuis 40 ans. Et puis, j'ai travaillé tout le temps pendant que je pouvais. Après l'accouchement de mon fils, j'ai eu une dépression. Mais après, j'ai continué à travailler. J'étais malade, mais après, j'étais à l'assurance. Puis après, j'ai continué à travailler. Mais mon mari, l'argent que je reçois, mais c'est lui qui prenait tout le temps. Même si je dois acheter un slip, je dois le montrer. Puis il me criait pourquoi je dois acheter un slip. Moi, j'ai rien profité. C'est lui qui a profité. Et puis, même les habits à mon fils, quand j'allais acheter, il me gaulait. Et même maintenant, j'ai vécu violence domestique. Toute ma vie, j'ai caché parce qu'il me disait si j'allais dire à ma famille et à sa famille que tu es toute ma famille, moi, mon fils. Et ça, j'ai vécu toute ma vie. Et puis après, là, il m'a violée, il me faisait des choses que moi, je n'ai pas vécu. Des viols. Alors, j'ai vécu violence domestique toute ma vie, et puis des viols. Et puis, après, quand j'ai reçu qu'il m'a trahi, parce que pendant Natel, il était tout le temps en Natel, et il est malade aux yeux, parce que j'ai vu dans son dossier médical, il est dépressif chronique, et puis alcoolique. Et puis ça, les médecins, ils n'ont jamais mis son dossier. Il m'a mis en Malibu ici parce qu'il a manipulé mon fils plusieurs fois en Malibu. Et moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est moi qui faisais tout le temps le travail à la maison. Et même dehors, c'est moi qui s'occupais. J'étais mère et père toute ma vie. Même c'est moi qui s'occupais des choses parce que lui, il ne payait même pas les factures. Et moi, je disais, tu dois payer tes factures. Et lui, il disait, ah non, moi, je suis à l'AI. C'est qui est à l'AI, il ne paye rien du tout. Et il laissait tout traîner. Il y avait même son studio, c'est moi qui ai payé. Et j'ai vécu tout le temps, toute ma vie avec lui. On est séparés, c'est vrai, mais c'est lui qui m'a obligé à vivre avec lui parce qu'il m'a dit que tu es ma famille et mes enfants, mon enfant. Et puis après, j'étais vécu avec lui toute ma vie. Et puis un jour, il allait me tuer. Il m'a coupé partout. Avec une ampoule, il m'a coupé partout dans le corps, partout. Et après, il m'a arraché les cheveux. J'avais plein de sang. Et puis après, il a tiré la ceinture en cuir. Il m'a frappé partout. J'ai resté le corps tout noir. Et puis après, il y avait mon chien. C'est ma soeur qui m'a offert. Il m'a pris une bouteille de champagne. Une bouteille de grand champagne. Il m'a mis contre une armoire. Il m'a dit, ça fait longtemps que je veux te tuer. Et puis, il m'a mis la bouteille dans le champagne, ici, dans le cou. Et puis, j'arrivais plus à respirer. Mon chien, il a pleuré. Et puis après, heureusement que la porte n'était pas fermée à la clé. Et le voisin, il a attendu. Il est venu, il a ouvert la porte. Et moi, j'arrivais plus à respirer. Il manquait 2 secondes pour être mort. Et puis, je sais qu'après, j'ai vu. J'arrivais plus à respirer. J'étais comme ça, comme ça. J'ai vu après que le voisin a ouvert la porte, il a mis la bouteille comme ça dans la côté de la cuisine. Il est parti et puis moi je suis tombée par terre. Il y avait plein dans le studio partout.
Merci.
C'est triste, heureusement.
Oui.
Et je souhaite ça à personne.
Merci, Andrea, pour
ce partage. Et puis aujourd'hui ils m'ont obligé à venir ici à l'hôpital parce qu'ils m'ont attachée avec. J'étais voir le mannequin à passer dans la ville. Et puis, il y avait la musique. J'étais voir quelque chose. J'étais faire ma commission. Tout allait bien. Et puis après, il y avait des passages modèles. Et puis après, j'ai dit à Pantouf, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont été faire passage modèle dans la boutique. Il y a le soda, je connais bien. La patronne
si vous êtes d'accord, Andrea, on ne va pas trop rentrer dans les précisions parce qu'on n'est pas tous de Montaigne.
Et,
donc,
et puis après,
je comprends bien.
Il y avait la musique de Voyage, c'est parce qu'il est avec la femme qui est là. Il a fait des enfants et tout ça. Et puis après, il y avait une dame qui venait à côté de moi. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué tout ça. Elle a appelé la police. La police, après, elle n'était pas là. Après, elle est revenue. Ils m'ont ramené au poste de police. Et puis après, ils ont appelé 144. Après, ils m'ont ramené à l'hôpital. Et l'hôpital, ils m'ont monté dessus sur moi. Ils m'ont éjecté. Et après, ils m'ont mis sur le lit. Ils m'ont mis l'élastique partout, de tout. Et puis après, ils m'ont ramené ici. Je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien fait de mal.
Mais certainement. Merci en tout cas pour ce partage, Andrea. Ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale. Et je pense que vous qui aimez chanter, Andrea, peut-être que vous allez chanter. J'ai choisi l'hymne des femmes. Qui est un hymne formidable qui a été écrit dans les années 70. Je vous ai photocopié les paroles. Je propose à Julien de glisser pendant que je parle la musique. Et puis si vous avez envie de chanter, chantez. C'est vraiment un hymne magnifique, écrit pour toutes les femmes et pour vous, Andrea, aussi.
Depuis l'âge des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout.
Merci, merci à vous toutes, merci au collectif féminin qui a chanté cette magnifique hymne pour les femmes. Merci Andrea pour votre témoignage. Merci Silette Créton, merci Mado, que j'appelle Mado parce que j'imagine que
elle
c'est Madeleine,
Mado.
Votre prénom. Silette, vous avez dit « tant que l'humanisme ne défend pas hommes et femmes, il faut être féministe
». Oui, j'ai vécu une époque où, lorsqu'on nous traitait de féministes, c'était jamais nous qui disions qu'on était féministes, mais on nous traitait de féministes, c'était généralement une injure. C'était généralement pour nous dire qu'on allait trop loin, qu'on réclamait des choses impossibles. Et c'est vrai que le terme était terriblement connoté. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que il fallait tout simplement qu'on admette, mais oui, je suis féministe. Je suis féministe et je suis fière de l'être, parce que si l'humanisme avait suffi à défendre mes droits, je n'aurais pas eu besoin de défendre les droits des femmes. C'est bien parce que, en règle générale, on ne s'en occupait pas, qu'il fallait qu'on s'en occupe nous-mêmes.
Et on se tient debout devant l'adversité en parlant haut et fort, comme vous, Silette Créton. En tout cas, du moins, on essaye. Et merci encore de nous avoir rejoints autour de la table de Pavillon Nomade. Cet espace de liberté entre vous et nous, que vous pouvez écouter en direct tous les jeudis entre 15h30 et 16h30, ou en différé sur le site pavillonnomade.ch. Silette Créton, il y a une tradition, le dernier jeudi du mois, c'est la tradition du portrait chinois. avec des questions si vous étiez. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais je vais commencer par celle-ci, si vous étiez une couleur.
Jaune.
Pourquoi ?
Jaune parce que c'est une couleur, c'est un peu la couleur du soleil. Ah, c'est la couleur de votre veste aujourd'hui.
Voilà, on est à la radio. Si vous étiez un animal ?
Un animal, un chat. Une chatte de préférence. J'aime bien ces petites bêtes, elles sont affectueuses, elles ne se plaignent pas beaucoup.
Si vous étiez un sens ?
Un sens ? Ah, je pencherais pour la vue parce que j'ai très mauvaise vue et je vois à quel point on peut être handicapé.
Si vous étiez un instrument de musique ?
Un piano.
Vous en avez fait ?
J'en ai fait quand j'étais enfant, mais ça fait très longtemps que je n'ai plus touché un piano. Mais je me rappelle que j'adorais ça et que mon père avait réussi à nous décrocher un vieux piano pour nous faire plaisir.
Un ou une pianiste de légende, comme ça ?
J'aurais de la peine.
C'est difficile, hein ?
C'est difficile, oui.
Je comprends.
Je ne suis pas très musicienne, pour tout dire.
Si vous deviez vous définir, que diriez-vous, Silette Créton ?
Je serais peut-être pas très tendre parce que j'ai passé ma vie à faire de la provoque. Et j'aimais ça. Et je suis prête à en faire tant que j'en aurai la force.
Cette provocation, elle est passée par la politique. Alors, je me suis assise sur un petit volume que m'a remis tout à l'heure Gabriel Binder. Je ne sais pas si ça vous dit quelque
le
chose.
Le printemps du Valais.
C'est oui. Un petit... Alors, je ne veux pas dire que c'est le petit livre rouge, hein, mais il est rouge.
À l'époque, c'était le cas.
C'est écrit par la jeunesse radicale. On peut imaginer, vous qui avez été journaliste aussi, que vous y avez mis votre patte.
Non, pas du tout. Non, à l'époque, c'était un privilège réservé aux garçons du parti.
Encore
d'écrire, d'écrire leur haut fait d'armes et leur fait de gloire. Mais je ne sais pas quand il est sorti. Mais moi, j'ai commencé à faire de la politique en 1973.
Et il est de 71.
Voilà.
Mars 71.
Qu'on me récupère au sein du Parti radical.
Alors, il faut prendre le micro pour Andréa, oui.
Pardon, c'est mon année 71.
Votre année de naissance. Voilà. Eh bien, voilà. Il y a ce petit livre qui est sorti.
C'est l'année du droit de vote des femmes en Suisse.
Exactement. Oui, ouais. Et puis, je lis dans la première page, alors, l'homme libre dans un pays libre, ça certes. Mais je lis cette citation, ce que j'appelle un radical, c'est l'homme qui aime le droit et la liberté.
J'aurais bien aimé que ce soit le cas. Je me suis trouvée même être un jour présidente du Parti radical valaisan, mais je dois dire que la première année où j'ai commencé à faire de la politique, en 1973, on m'a invitée à faire partie du Parti radical et j'avais accepté parce que je dois dire que j'avais jamais fait de politique, je savais pas trop de quoi il s'agissait. Et le slogan du parti à l'époque, c'était le virage à gauche. Et j'ai attendu 20 ans que le Parti radical consente à prendre un bout de virage à gauche, comme ça n'est jamais arrivé. À un moment donné, je me suis sentie libre de mes mouvements.
Pourquoi cet engagement en politique ?
Alors, l'engagement en politique, tout simplement, je pense comme beaucoup de femmes, j'avais eu le temps de tirer sur la laisse très fort et de mesurer sa longueur à force de tirer dessus. Et moi, je sortais des études à cette époque-là et j'étais choquée que tous les gars de mon âge puissent aller voter et que moi, je n'ai pas le droit parce que j'étais une femme. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé à mon entrée en politique. Et puis, il faut dire qu'un certain Pascal Couchepin, justement, que je connaissais parce que j'habitais la même ville, qui était président du parti à cette époque, était venu me trouver en disant « Il faut que tu sois candidate parce que maintenant, vous avez le droit de vote, on est obligé d'en mettre une. » Donc voilà, ce qui était sympathique. Hein. C'est comme ça que je me suis trouvée embrigadée et dans le parti radical et dans cette aventure.
On revient de loin. Je l'ai dit, vous avez été aussi journaliste. Vous avez écrit votre premier article, alors toujours, on l'apprend par Wikipédia. En 1964, vous aviez 19 ans. Est-ce que vous vous souvenez du thème de votre premier article ?
Oui, je m'en souviens très bien. C'était une rédaction que j'avais faite lorsque j'étais à l'école normale. Et en été, j'avais été travailler au Novelliste, répondre au téléphone. Enfin, j'allais remplacer quelqu'un. Et on m'avait proposé de publier cet article. Ce qui m'avait choqué, parce que j'ai toujours écrit des articles quand quelque chose me heurtait, là, c'était des femmes de Suisse alémanique qui avaient créé un groupe contre le suffrage féminin en 1964. Et ça, ça m'avait quand même profondément heurté. On ne l'avait pas, mais elles se battaient déjà en 64 pour qu'on ne l'ait pas. Et je me rappelle que l'article avait été écrit là-dessus. Je ne l'ai pas retrouvé, donc, mais je me rappelle très bien du thème.
Est-ce que quelqu'un a envie de
réagir
à cette idée? Oui, Chantal. Attendez, il faut juste prendre le micro, parce qu'autrement, on ne vous entendra pas sur les ondes de Pavillon Nomade. Voilà, dites-nous.
Non, je disais, de toute manière, ça n'a pas beaucoup changé. Maintenant, il y a le Rusty Graben qui, voilà... qui vaut jamais comme nous les romans souvent. Ben voilà, après c'est une guerre,
c'est complexe. La Suisse est complexe, hein, ça c'est sûr.
Oui, mais effectivement, c'est la politique est complexe, je trouve.
On est en 64, ouais. Et ouais, qu'il y a déjà un groupe qui dit qu'il faut pas donner le droit de vote aux femmes, ça laisse un petit peu songeur et songeuse.
Oui, mais...
on est d'accord. Quel rapport avez-vous aux mots?
Aux mots?
Oui.
Ça dépend lesquels.
C'est une bonne réponse.
Les gros mots, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'en disais beaucoup, ça me valait beaucoup d'ennuis, parce que je crois, comme j'ai quand même été éduquée beaucoup par des religieuses, je crois que je n'avais pas du tout envie d'être une petite fille modèle. Et je m'ingéniais à cultiver un vocabulaire dont je ne suis pas fière du tout aujourd'hui, mais j'ai parfois encore du mal à m'en débarrasser maintenant.
Alors moi, je me tourne vers votre grande sœur. Est-ce que Silette était une petite fille modèle ou pas, selon vous ?
Non, ce n'était pas vraiment une petite fille modèle. Ce qui me frappait particulièrement, parce que moi, j'étais plutôt timide, c'est que même quand on lui disait « si tu rentres trop tard, tu vas être punie », elle disait « je m'en fiche de la punition ».
Et je rentrais tard.
Et tu rentrais tard.
Oui. Oui, Christelle, prenez le micro.
Je voudrais juste dire que c'était déjà une rebelle à l'époque.
Ben oui, mais comme beaucoup de femmes. Hein.
Oui, beaucoup. Oui. Oui. J'en fais partie aussi des rebelles.
Oui.
Silette Créton, je vous ai demandé si vous aviez envie d'écouter durant cette heure d'émission de la musique, en particulier des chansons, et vous m'avez répondu oui, et que vous étiez très classique en chansons françaises. C'est les 3B, Jacques Brel, Barbara, Georges Brassens et Léo Ferré. Alors j'ai regardé un peu ma playlist et puis je me suis dit bon, il y a quand même Barbara, effectivement, il y a Jacques Brel, et il y a Barbara qui chante Jacques Brel.
Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou le télé, au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et les cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme, des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Mais il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter. Il nous faut regarder.
Magnifique chanson de Jacques Brel pour les paroles et la musique interprétée par Barbara. Cette chanson qui dit que bah, tout simplement il faut regarder.
N'est-ce pas ? Ce qu'il y a de beau.
C'est magnifique. C'est voilà, c'est une chanson qui va traverser les âges, hein, probablement.
Bien sûr.
C'est important.
Oui, je crois que c'est important parce que la vie ne nous donne pas tous les jours l'occasion de voir de belles choses. Je disais tout à l'heure, je suis née le jour de Nagasaki et je me dis que quand on regarde l'état de paix dans le monde 80 ans après, on ne peut pas dire qu'on ait fait d'énormes progrès. Donc il faut vraiment ouvrir grand les yeux pour voir ce qu'il y a de beau, parce qu'il y a quand même de grands progrès, ne serait-ce que la possibilité de vous rencontrer aujourd'hui dans cette atmosphère sympathique, chaleureuse, qui fait du bien.
C'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien d'être autour de la table de Pavillon Nomade, cette radio follement normale ici à Malévo. Peut-être qu'on va rester un tout petit peu sur cette chanson de Barbara et de Brel. Regarder les petites choses, c'est aussi ce qu'on fait à Malévo. On regarde le parc, on regarde la nature. Qu'est-ce que vous en pensez, Eliane, vous toutes qui êtes autour de la table, Christelle éventuellement, Andrea, Christine?
Moi, je pense que lorsqu'on traverse des troubles psy, quels qu'ils soient, c'est même pas à la journée qu'il faut voir, c'est pas à pas. Et regarder le chemin qu'on a parcouru, parce qu'on en a fait un de pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des maladies ingrates. Peu de gens les reconnaissent, nous comprennent. Et voilà, il faut s'encourager à regarder ce qu'on a fait. Et puis après, on fera un autre pas. Mais demain, pas aujourd'hui.
Christelle.
Alors, je suis entièrement d'accord dans les propos d'Eliane. Un jour à la fois, un pas à la fois. Moi, je venant de Genève en 2016, j'ai atterri à Malévo. Et Malévo m'a sauvé la vie, en fait. L'hospitalisation que j'ai vécue ici par rapport à Belle Idée à Genève n'a absolument rien à voir. Et le parc est magnifique. Et ses fleurs, ses arbres, ses papillons, ce soleil, ses montagnes. Enfin, je trouve que le cadre est vraiment superbe et ça fait du bien à l'âme.
Christine.
Ben, moi, je vois moins de bucolisme dans tout ça, parce que je pense que ça va aussi un peu avec l'état qu'on a, mais quand je me sens pas bien, j'ai de la peine à trouver le parc joli et j'ai même de la peine à aller me balader dans le parc. J'ai plutôt tendance à me refermer sur moi-même. Et après, c'est plutôt quand je fais des visites de l'extérieur que je me rends compte qu'effectivement, il est super entretenu, que c'est magnifique, etc. Mais quand je suis hospitalisée, j'ai de la difficulté quand même.
C'est compréhensible. En tout cas, merci d'être là autour de la table avec nous. Andrea, peut-être, vous avez envie de rajouter quelque chose ? Je vous laisse prendre le micro.
Pardon. Moi, pour moi, je vois la souffrance. Et puis, je vois que les innocents, c'est qui, c'est là, les innocents qui souffrent. Et puis, ils sont là. Ils font rien du tout. Ils sont là-dedans. Et puis, les autres qui font de mal, ils sont dehors. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, en plus, à cause des médicaments qu'ils nous donnent, moi, par exemple, je prenais le médicament à la maison et je me sentais bien. Et depuis que je suis ici, j'ai dit, excusez-moi, je me sens mal. Je mange, je prends beaucoup de choses, même dans, je vous dis la vérité, dans mon lit, dans le sommeil, dans à côté. J'ai beaucoup faim et j'ai un gros ventre. J'ai tout le temps faim, la nuit, la journée. Ils ne me donnent même pas, j'ai le diabète, ils ne me donnent même pas la glucéline. Ils ne me donnent pas la piqûre, je me sens très malade. Ils ne me laissent même pas sortir pour aller faire mes commissions. Parce que moi, je sens que ça, c'est pas bien. Ça, on est tous assez romains. Il faut être juste dans le monde.
Merci André, en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup. Chantal, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Il faut juste prendre le micro.
Alors moi, je peux dire que je comprends totalement Andrea, que j'ai vu arriver un jour ou deux après moi, démunie, sans souliers, sans rien du tout, parce qu'elle s'est fait embarquer dans une ambulance, choquée. Je lui ai prêté beaucoup d'habits, heureusement que j'avais en plus, parce que moi-même, je suis proche aidante, j'ai été blessée au dos, voilà. J'ai été à Grand Montana, je n'ai aucun suivi psychologique, jamais. Et je me retrouve ici simplement parce que je suis allée prendre faire une prise de sang chez Madame de Yacourt.
Enfin, on ne m'a pas donné de nom.
Oui, enfin, non, mais je veux dire, c'est une très bonne médecin qui est médecin aussi pour, peut-être la famille, c'est-à-dire mes parents, voilà. Et puis qui est merveilleuse. Et puis voilà, malheureusement, après, à 13h30, je devais aller au CCCP. Et là, comme 10 jours auparavant, des inconnus que je ne connaisse pas me disent « Allez, amarrez-vous !» Puis j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous me racontez ?» J'ai dit « Vous m'avez donné du lithium, déjà sans faire la prise de sang, simplement sur les dires de ma sœur ou bien de quelqu'un qui dit que je suis un peu stressée et puis que je ne prends pas mon médicament, que je ne dors pas. » J'ai dit, mais venez dormir avec moi, venez dormir dans mon appartement, vous verrez si je ne dors pas. J'ai dit, j'étais absente pendant un mois, enfin 3 semaines, c'est mon fils qui a dû s'occuper. Et d'un coup, je reviens, et voilà, il faut payer les factures, il faut faire ceci, cela. Et d'un coup, hop, dans une ambulance, sans aucun ménagement, c'est-à-dire avec ma colonne qui branlait comme ça, je me suis retrouvée là, sans rien du tout. Avec juste ce sac, quelques affaires, heureusement, c'est-à-dire une écharpe, mais même pas de souliers. Et c'est ma voiture est restée sur le parking. C'est ma fille qui a dû aller chercher les clés ici en vitesse après le travail et repartir. Et puis maintenant, une semaine après, je suis toujours coincée, alors que mon lithium, il est prêt. Il est pris. Et puis voilà.
Mais maintenant, vous êtes là aujourd'hui à partager.
Oui, justement. Alors, je suis
aussi autour de la table. Merci, Chantal.
Je ne suis jamais venue ici. Par contre, j'ai mon frère qui est venu. Oui. Et suite à cela, il est décédé. Voilà, on l'a trouvé décédé 3 ans plus tard dans la forêt. Alors, c'est pas un endroit, alors c'est très beau, j'en conviens, mais moi je préfère aller me promener dans la nature, à Wachmansue par exemple, à Martigny, enfin n'importe où. Voilà, ça me pèse.
Aller dans les mélèzes, c'est ça? Aller respirer l'air des mélèzes.
Hein. N'importe quoi, l'air de tout ce qu'on veut. Même au bord du lac, n'importe où, je suis libre. Je dis voilà.
Mais bien sûr.
J'ai jamais eu de suivi. Et puis je ne comprends pas pourquoi je fais là. Et puis j'espère que je vais vite rentrer chez moi et pouvoir profiter de mon appartement.
Mais c'est ce qu'on vous souhaite, Chantal.
Là, vraiment le délire.
On vous souhaite. Ouais. Eliane, vous avez envie d'ajouter quelque chose éventuellement?
Oui, je voulais juste préciser que la clinique, les deux cliniques à Cran, donc la Genevoise et la Bernoise, ne traitent pas les troubles psy. Hein. C'est pour se remettre au niveau musculaire. Voilà. Mais c'est très bien. Vous avez bien aimé quand même, Chantal. D'accord. Ouais.
Attendez, on peut pas plus personne ne vous entend si vous prenez pas le micro.
Non, non, mais vous étiez
là où
bien
c'était merveilleux. C'était merveilleux, mais c'était pour les la rééducation du dos, trois semaines et demie. Voilà.
Effectivement. On va revenir à Malevo. Malevo, c'est aussi le quartier culturel. Et actuellement, il y a deux expositions que je vous conseille vivement, s'il est Créton, d'aller jeter un œil avant de repartir. Michel Terrapon et André Créta. Je ne sais pas si vous toutes qui êtes autour de la table, vous êtes allés jeter un œil à ces expositions. Allez les voir. C'est jusqu'au 22 septembre. C'est des univers, comment dire, extraordinaires. C'est onirique. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas, là évidemment, les images à la radio, c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui rappelle le Folon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Folon, du dessinateur Folon, qui, à l'époque... C'est de la vieille télévision dont je parle, où France 2 n'était pas France 2, mais Antenne 2. Et à la fin, vers minuit, il y avait, pour terminer les programmes, il y avait des petits personnages qui s'envolaient. Et c'est le dessinateur Folon. Alors, ce n'est pas lui, là, c'est André Créta. Mais ça ressemble terriblement et c'est magnifique. Allez voir ces expositions, c'est jusqu'au 22 septembre à Malevo. On avait prévu une petite chronique, Eliane, mais les animaux sont en vacances cet été, dites-moi.
Absolument, j'ai pas pu les retenir.
Eh ben, dis donc, parce que je vous explique, Silette, Eliane nous fait une chronique tous les jeudis sur les animaux. Et c'est une magnifique chronique, mais effectivement, ils sont partis. Ils sont partis pour certains, ils sont montés, et puis pour d'autres, ils se sont envolés.
Oui, parce qu'on va partir un petit peu dans l'exotisme. La prochaine rubrique, le 21 août, sera sur les hippopotames.
Eh bien, on se réjouit. On arrive gentiment au terme de cette émission. Cette émission, merci de nous avoir rejoints autour de la table, Silette Créton. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était vraiment un beau moment. Merci Eliane, merci Christelle, merci Andrea, merci Christine. Merci Mado, merci Chantal, merci Julien, merci Dominique.
Merci Marie-Claude.
Pavillon Nomade, c'est cette radio follement normale que vous pouvez écouter en tout temps sur le site pavillonnomade.ch. J'ai choisi une dernière chanson pour nous rappeler que nous toutes et tous avons non seulement des devoirs, mais aussi des droits. Cette chanson, c'est celle de... C'est We Shall Overcome et c'est John Baez qui l'interprète.
D'accord.
We shall